Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
On peut pas jouer sans être OK avec les règles du jeu. C'est Océan, il est bien plus puissant que moi. Donc
ça, voilà. C'est clair que quand tu regardes les images, tu te dis, mais à quoi tu t'attaques, toi, petite Justine, quoi, tu vois?
Je m'attaque à rien du tout parce que j'ai perdu d'avance. je profite d'un petit instant avec l'Océan et il m'accepte pour quelques secondes. Et ouais. Voilà.
Exécuté par qui? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com. Donc, vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Justine, merci beaucoup d'être dans Histoire de succès. Alors, pour expliquer un petit peu, tu te décris sur ton site internet comme surfeuse de grosses vagues. Ça m'a fait rire au premier abord parce que je savais pas ce que c'était. Mais c'est le vrai terme. C'est vraiment, on appelle les grosses vagues des grosses vagues.
Oui, en France, c'est ça. En anglais, c'est big wave. Voilà.
C'est ça. Et donc, tu as traduit littéralement. Mais pour expliquer un peu aux gens, quand grosses vagues, c'est vraiment très grosses vagues. C'est pas les grosses vagues genre qu'il y a au Pays Basque. Ou c'est sympa, quoi, tu vois.
Oh, au Pays-Bas, il peut en avoir.
Il peut y en avoir.
Au large, ouais. À Bellara. Mais oui, c'est grosse vague. On pourrait dire même grande vague, en fait. Ou vague haute, en fait. Parce que c'est les vagues qui sont formées et les tempêtes, et donc qui sont plus
incroyable.
Importantes.
Et donc, c'est des vagues qui font entre 15 et 20, 30 mètres de haut, c'est ça? C'est débile, au possible. Enfin, c'est pas... non, mais bon...
C'est riche en émotions, ben ouais. Et c'est intense et c'est un
incroyable.
Océan puissant, oui.
C'est incroyable. Donc toi, tu surfes ça, c'est ta spécialité. T'as eu, on va en parler, mais tu as eu toute une carrière avant de surfeuse un peu plus classique, on va dire.
Oui,
et ton kiff depuis quelques années, c'est vraiment d'aller dans les spots les plus fous du monde, où il y a les plus grosses vagues, et d'aller les surfer, donc de descendre, de dévaler des vagues qui font 15-20 mètres de haut, quoi.
Voilà, c'est ça, c'est plus extrême que fou. On peut remplacer ce vocabulaire. J'ai un cerveau qui fonctionne très bien.
Bien sûr, mais il y a quand même une vraie sensation et une vraie envie d'aller chercher, comme tu dis, l'extrême, qui est un peu l'air de rien. Enfin, moi, quand je regarde les vidéos, je me dis, OK, Justine, elle y va, quoi.
Oui, après moi aussi, quand je regarde les images et les vidéos après coup, ça fait toujours bizarre. Mais sur le moment. Et avant, c'est une recherche de sensations, de pousser sa pratique, d'aller plus vite sur sa planche, de faire des trajectoires différentes. Enfin voilà, il y a plein de recherches différentes.
Pour que les gens aient une idée, 15 mètres de haut, c'est en gros un immeuble de 5, 6, 7 étages, quoi.
J'ai jamais été très très douée en maths, mais je sais plus.
Ça 3 fait 3 mètres à peu
par
près,
étage, et voilà, et donc plusieurs étages. Mais bon, une grosse vague à partir de quelques mètres, à partir de 3 mètres, ça c'est déjà un océan puissant qui peut nous retourner, nous envoyer dans tous les sens, et sous l'eau, bah, ça peut être pas très gentil, agréable et doux. Hein.
On va en parler. Tu t'es blessé d'ailleurs il y a 5-6 ans, c'est ça ? Il y a 2018 Tu t'es fait très mal.
Oui, oui, moi, bon, plusieurs reprises l'année dernière aussi, mais là, tout va bien.
Ok. Et on en parlait là juste avant de démarrer, mais t'es enceinte ?
Oui.
Tu vas devenir maman dans quelques mois ?
Tout à fait. Moi, j'ai l'impression de l'être déjà parce que je lui parle, il est là, il bouge. Mais oui, tout à fait.
D'un petit garçon, c'est ça ?
Exactement.
Et bon, on va parler un petit peu de... Je me demande ce que cette perspective de devenir maman va avoir dans l'impact de ta carrière. Je ne sais pas si c'est quelque chose auquel tu as réfléchi ou alors si tu te dis...
Je me le demande aussi. Non, bon, on verra bien. Après, on évolue chaque jour. Donc je me sens hyper libre de tout ce que je vais faire après, et comment, et sûrement différemment. Mais après, on reste humain avec un caractère et on ne se change pas à 100% non plus. Hein. Donc, oui. J'aime l'océan, j'aime le surf, j'aime ces grosses vagues. Et je sens que bah, même avec lui, finalement, je lui fais partager déjà. Et j'adore et c'est ce que je vais continuer hein, en étant... encore plus intelligente, réfléchie et efficace.
Voilà. Oui, parce que j'imagine qu'il y a un vrai côté prise de risque quand tu dévales comme ça d'une vague. C'est très marrant parce qu'il y a quelques... Je mettrai des liens pour les gens qui veulent aller voir. Moi, j'ai vu quelques vidéos de toi. C'est où tu es en train de, notamment, dévaler la vague de 20 mètres de haut là, que tu as prise
à Nazaré
au Portugal. Où, donc, c'est la GoPro qui te prend, mais tu es illuminé par... Il y a zéro peur. C'est incroyable de voir ta tête. Oui. T'es juste dans le kiff, en fait.
Oui, parce que la peur, elle est avant et elle est après. Mais dans l'instant, tu vis l'instant et tu vis pleinement. Et bon, s'il y a un sourire accroché au visage ou s'il y a un air lumineux et tout ça, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Et moi, quand je suis sur ma vague, ben, j'en profite. C'est là où je vis pleinement. Et ouais, il y a un petit côté où tu as l'impression de toucher la magie. Et en même temps, tout est simple. Mais ce serait même plutôt du lâcher prise que... Ouais, t'arrives à lâcher complètement prise, à être là et être porté.
Est-ce que finalement, c'est pas le meilleur moyen de pas se blesser, d'être dans
tout à fait.
Cette attitude-là?
Ah oui, oui. Bon, si on pense à ne pas tomber déjà, ce côté négatif et tout ça, ben c'est sûr qu'on va tomber. Donc non, on pense à être libre, à être concentré, à être fléchi. En tout cas, je pense à tout ça.
C'est
toi. Et voilà.
Toi, tu fais ça.
Oui, voilà. Et ça marche bien. Et par moment, l'océan veut m'envoyer vers la case hôpital et réfléchir un petit peu plus sur comment je fais les choses et le faire encore un peu mieux parce que je fais trop d'erreurs. Et puis là, bon, mais dans ce cas-là, les erreurs, elles sont vite apprises.
Waouh, bon, on va en parler hein, parce qu'effectivement, j'imagine que la case, elle n'est pas anodine quand tu tombes comme
oui,
ça.
Oui, mais
quoi.
Ça fait partie du jeu.
Ouais, ok.
On ne peut pas jouer sans être OK avec les règles du jeu. C'est l'océan, il est bien plus puissant que moi. Donc, voilà.
Ça, c'est clair que quand tu regardes les images, tu te dis, mais à quoi tu t'attaques, toi, petite Justine, quoi, tu vois,
Je m'attaque à rien du tout parce que j'ai perdu d'avance. Je profite d'un petit instant avec l'océan et il m'accepte pour quelques secondes. Et
ouais.
Voilà. Puis des fois, il est un peu plus en colère. Des fois, il est magique. Et voilà, c'est presque un... Je dirais pas un humain, mais même les vagues et tout ça, j'aime bien les comparer des humains. C'est des caractères un peu différentes. Et voilà, pour pouvoir jouer le plus possible avec la vague, il faut pouvoir la prendre, la connaître.
On va reparler de tout ça, parce que c'est trop intéressant. Ma première question dans le podcast, c'est à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans ?
Quand j'avais 7-8 ans, ben bonne question. Je pense que j'étais active. Je faisais un peu de tennis. Je commençais à faire de la natation. Ah, je faisais la voile. Ah oui, 7-8 ans, j'ai commencé la voile. Et ça, c'est vrai que c'était le premier sport un petit peu en contact avec les éléments, avec le vent, et donc sur le petit lac à Lacanau, et avec mon frère et ma sœur. Et c'est vrai qu'on commençait à en faire même en hiver, et il faisait pas très chaud. mais il y avait déjà ces sensations avec l'élément qui étaient assez intéressantes. On avait un peu peur quand il y avait vraiment beaucoup de vent et tout. Donc je dirais...
Et t'allais faire ça avec ton petit frère, ta petite sœur, ou ton grand frère ?
Ouais, mon grand frère et ma sœur, et sœur jumelle, et mon grand frère qui a 1 an et demi, donc on est presque trio. Et voilà, et après je pense que j'étais assez bien à l'école, après j'aimais passer comme ça, une petite souris dans la classe, pas être forcément trop trop visible non plus, je pense. Enfin en tout cas c'est mes souvenirs, oui.
Ouais, c'est ce dont tu te souviens ?
Ouais.
Tu faisais pas encore de surf à l'époque, c'est venu plus tard, c'est ça?
Oui, ouais, je faisais pas de surf.
T'avais pas le droit?
Non, on habitait à Saint-Médard-en-Jalles, c'est la banlieue de Bordeaux, il n'y a pas donc l'océan. Après, on a fait plutôt de la natation et une piscine. Et on se rapprochait du lac, parce que mon père était parti en vacances plus jeune à la cano, il avait aimé. Et donc, on est allé faire de la voile, on est parti faire de la voile. Et puis après, le lac s'est passé à l'océan et aux vagues, mais plus vers 10-11 ans, du coup,
okay.
Plus tard.
Mais j'avais entendu dans une interview où tu forçais un peu pour pouvoir monter sur la planche et ton père n'était pas forcément très chaud, c'est ça, pour que tu montes direct ou...
Ah non, mais après c'était plus on achetait nos jouets aux bourses et tout ça là, et puis il y avait une planche et mon père l'avait achetée pour mon frère qui était un petit peu plus grand.
Yes.
Et donc voilà, c'était pour apprendre à mon frère à surfer. Et du coup, moi, je perdais mon copain de jeu dans les vagues, dans où j'allais juste m'amuser, nager. Et on avait des petites planches, les bodyboards.
Ouais.
Et là, tout d'un coup, bon, mais voilà, il commençait
il
à aller dans
là.
Les vraies vagues et il n'était plus là. Donc, et en plus, je comprenais pas pourquoi ça l'attirait autant. Il passait autant de temps dans l'eau avec cette planche-là. C'était déjà bien avec nos petites planches et nos
ouais.
trucs. Et voilà, donc j'ai voulu un petit peu batailler pour comprendre et j'ai vite compris. Et voilà, et j'ai attendu un petit peu, j'étais un peu patiente pour avoir ma propre planche. Et
tu te souviens de la première fois où tu es montée sur une planche?
Oui, ouais. C'était une toute petite mousse, une toute petite vague. Et du coup, j'avais insisté auprès de mon père et de mon frère pour qu'ils me laissent prendre une petite mousse. Et voilà, et ça a duré quelques secondes. Et après, c'était déjà mon frère qui me disait hey, rends-moi ma planche. Non, encore une. Voilà, c'était ma première petite mousse.
Quand tu dis petite mousse, c'est vraiment petite. C'est
une petite
genre,
vague,
une petite
oui,
vague qui fait un peu d'écume, c'est ça?
Voilà, c'est ça. On commence ce qu'on surfe en tant que surfeur, c'est la vague, la déferlante, on pourrait dire ça. Et puis, une fois que ça a cassé, mais du coup, là, que l'eau évolue en mousse, ça, c'est tout blanc, ça fait plein de petites écumes dans tous les sens. Donc, pour commencer à surfer, on va juste au bord de l'eau et on prend ces petites mousses.
Ok. Quand est-ce que tu as commencé à dire, ok, c'est vraiment un truc que je veux faire et je veux faire le plus possible?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dès le début, j'aimais ça, ça c'est sûr. Et après, je pense que ça a été le petit presque conflit avec l'athlétisme, où j'aimais beaucoup la course. Enfin, j'avais aimé la natation aussi avant, mais là, c'était plus la course des petits crosses. Et c'était un peu moins ludique. C'était plus répétitif quand même. La piste, et voilà, pied droit, gauche, devant, tatatat. Et là, l'océan, mais ça changeait à chaque fois. Donc, j'étais plus fascinée par cet élément. Et du coup, j'ai pris vraiment la décision, ou en tout cas, ça s'est ressenti vers les 14-15 ans, là, quand je suis rentrée après un sport-études à Bayonne. Et là, il fallait faire le choix et arrêter l'athlétisme pour le surf.
Tu voulais faire du sport, quoi qu'il arrive. Tu étais partie en sport-études, c'était un peu ton élément, c'est ça ou...
Le sport-études, enfin oui, le sport, oui,
oui,
ça c'est sûr. Le sport, j'aimais ça. Mais après, en professionnel, pas du tout, enfin, où mes parents en tout cas n'étaient pas du tout sportifs professionnels, loin de là. Donc, nous, moi,
ils faisaient quoi tes parents comme métier?
Alors, mon père était technicien, j'aurais même pas de dire, j'ai jamais su expliquer trop, à l'aérospatiale, il travaillait là-bas. Et ma mère, mère au foyer, elle avait travaillé un tout petit peu avant d'avoir mon frère. Et... Voilà.
Donc, effectivement, rien à voir avec le
non, rien à voir, non, pas du tout des carriéristes non plus. Donc, pas un côté non plus business ou quoi. Non, c'est vrai.
Comment...
C'est cool, des bases sur la nature. Ils nous ont enseigné beaucoup de bases sur la nature et sur le côté familial. Et voilà.
Ah, trop bien. Et donc, ouais, tu disais sport-études, t'es allé à Bayonne, c'est ça?
Oui.
Mais alors, à quel moment tu te dis, OK, je veux aller faire du surf plutôt que de l'athlé? C'est ouais. Là, c'est à ce moment-là.
Ouais, alors c'était un peu contradictoire parce que j'aimais pas trop les grosses vagues. J'avais un peu peur des grosses vagues. Du coup, ça me bloquait un petit peu et donc pour faire des compétitions, pour entrer dans le club de surf, tout ça et souvent les entraîneurs me demandaient et c'était plus ça venait plus d'eux qui me sollicitaient pour ce genre d'événement et tout. Et moi, je perdais un peu mon côté surf, liberté totale, aller s'amuser avec ma famille, avec mes amis et être vraiment libre dans l'océan.
Il y avait une contrainte.
Oui, derrière. Voilà. Mmh. On commençait à m'imposer des contraintes et des règles et du coup, j'avais plus tendance à fuir. et finalement, après, j'ai compris que je pourrais surfer tous les jours, alors que là où j'étais à Saint-Médard et Saint-Aubin et tout ça, là, ben, je pouvais pas surfer tous les jours de la semaine. Et là, j'avais quand même une autre possibilité et une autre perspective.
Okay.
Près d'avenir un peu plus pro et tout ça, même okay. si à ce moment-là, j'en avais peut-être pas conscience à ce point-là, mais ça commençait à s'aligner vers un cheminement professionnel, je pense.
Ah ouais, d'entrée en fait, assez rapidement.
Mais vers 14-15 ans, ouais. Je pense, oui. Je comprenais que j'aimais énormément ça et que j'avais envie de progresser et vite et que j'avais des capacités où je pouvais me mettre dedans à fond, je pense. Ça, je l'avais un petit peu intégré. Après, jusqu'où ça m'amènerait ou quoi, ça, je ne savais pas.
Voilà.
Après, j'étais encore sur le cursus. Je voulais faire ostéo. Enfin, j'avais encore le côté études avec kiné ou quoi, première année de médecine, machin et tout.
Et tes parents qui n'étaient pas du tout dans le sport, eux, ça ne les a pas inquiétés. Ils t'ont laissé aller faire ta vie, quoi.
Oui, mais ils aimaient... Pas trop au début d'ailleurs, sport-études, parce que bon, il y a le côté mais sportif, du coup, je vais faire plus travailler mes muscles que mon cerveau. Et, et voilà, là, ce cliché-là un petit peu, mais finalement, bah, tant que les notes elles suivaient à l'école, ça allait.
Ils t'ont laissé faire, petit à petit.
Oui, et puis après, c'était pas évident, même pour moi, hein, qui était le petit cocon, le nid familial. Et puis après,
parce que
t'étais
en internat,
quoi.
C'est ça?
Oui, après, ouais. Ouais, en internat, les compétitions les week-ends, et puis ça passe de vraiment une vie... avec la fratrie à la maison et tout ça, et à partir un peu toute seule. Donc c'est une vie complètement différente, et là tu sors de ta zone de confort et c'est parti, tu vas découvrir le monde. Donc c'est un peu perturbant au début quand même.
Comment tu as fait pour te mettre petit à petit à ces contraintes dont tu parlais tout à l'heure et que tu n'avais pas envie de faire finalement, de transformer ce qui était pour toi, j'imagine, un passion et un hobby en... en discipline, finalement. C'est un truc que tu dois faire tous les jours, pour lequel tu dois t'entraîner et tout. Ça a été simple, tu te souviens?
Oui, après, la discipline, je l'avais naturellement parce que je voulais progresser. Donc, je mettais de la discipline, mais en fait, j'en avais pas forcément conscience. C'est peut-être ça. Mais donc, en fait, c'est plus une prise de conscience d'avoir un objectif en ligne de mire et de mettre toutes ces billes là-dedans pour avancer. Donc après, bon, mais dans tout ce que j'avais besoin pour réussir, il y avait cette rigueur et ce côté un peu plus oui, dans le moule et tout ça, même si ça n'a jamais été mon atout.
Hein. Mon point atout.
Non.
Tu considères aujourd'hui que c'est important pour toi, la liberté?
Oui. Ah oui, la liberté, mais c'est pour ça qu'on utilise tous, je pense. Enfin, je sais pas, c'est...
En tout cas, que tu vis, toi.
Oui, en tout cas, moi... Oui, mais après, on a un pourcentage de liberté dans notre vie qui est pas suffisant tous, hein, je pense. Mais c'est vrai, c'est important. C'est, ça nous, je sais pas, c'est comme ça qu'on est, nous, 100% pure nature, simple, je trouve.
T'aimerais bien être encore plus libre que ce que t'es libre aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que t'as quand même une vie où t'es plutôt libre.
Oui,
t'as des engagements, j'imagine, mais t'as réussi à inventer la vie que tu voulais avoir, j'imagine.
Oui, non, mais ça... inventer la vie que j'ai. Oui, oui, je l'aime beaucoup et j'en suis ravie. Et je suis consciente que plus de liberté aussi, ça serait d'un autre côté plus de voir aussi. Enfin, donc là, je suis dans un bon équilibre parce que après, voilà, c'est comprendre aussi que la vie, c'est une question d'équilibre. On peut pas vouloir à 100% quelque chose et pas faire de concessions autour. Donc, c'est une histoire d'équilibre.
Ok. Voilà. Tu te souviens d'un moment où, de déclic où tu te dis, ok, donc là, je vais devenir professionnel et je vais faire du surf ma vie. Il y a un truc dans ta vie qui est un peu un point de bascule.
Moi, je pense vers les 18 ans quand du coup, ben, on finit le lycée et là bon je m'inscris en fac mais bon je sais au fond de moi que je vais pas beaucoup m'y présenter et que mon parcours il est Il est d'abord dans le sport. Et là, j'étais vraiment prête à me dire, de toute façon, je mise le sport, le surf à 100%. C'est maintenant. Et si j'y arrive pas, je repartirai dans les études. Il n'y a pas de souci. Je me faisais vraiment confiance sur le fait de s'il fallait rebondir, s'il fallait arrêter ce rêve-là, j'allais rebondir. Il n'y a pas de souci. Il fallait juste travailler et peut-être un peu plus différemment. Et...
Parce qu'à 18 ans, tu étais déjà dans la compète.
Oui, oui, à 18 ans, j'étais déjà dans la compétition. Mais à 18 ans, c'est là où je commence à avoir mes premiers contrats, où c'est un peu plus professionnel, où il commence à avoir un peu plus de budget. Et puis, il y a plus ce cadre de l'école. On n'est plus considéré comme étudiant. Ça y est, on est adulte, en fait, tout simplement. Donc, c'est une petite barrière. Je pourrais dire, quand tu me poses la question, moi, je me dis, c'est peut-être 18 ans. Après, comme tout dans ma vie, ça a été aussi un circuit pas à pas. En fait, c'est pas du jour au lendemain où je me suis dit, ça y est, je suis pro, ça y est, je surfe les grosses vagues. Non, ça a été petit à petit.
J'imagine. Et si je me trompe pas, à l'époque, t'es l'une des premières Françaises qui commence à être reconnue sur, au niveau mondial des surfeuses.
Oui, après, j'ai fait des. Il y a d'autres Françaises qui se sont illustrées au niveau mondial. Hein. Et moi, j'ai fait des disciplines différentes aussi. Donc, ma première compète importante, j'avais fait les championnats du monde, j'avais 15 ans, j'étais sur un longboard, c'était la grande planche. Et j'avais fait deuxième. Et après, j'ai fait d'autres compétitions sur la petite planche où il y avait un peu plus de concurrence. Donc, j'aimais. Et ça m'avait bien plu parce qu'il y avait, plus de challenge du coup.
Bon, on est interrompu par des travaux dans l'hôtel. Là, on est dans ton hôtel, Justine. Peut-être il y aura une petite mélodie de fond, hein, mais on va voir. En tout cas, on va continuer l'interview, sinon ça peut être très long. Je te demandais, tu commençais à avoir des premiers sponsors là, à ce moment-là, c'est ça, dans ta vie?
Oui, j'ai dû avoir les premiers sponsors vers 14 ans, je crois. Ouh, j'ai du mal à me rappeler.
C'est incroyable, ouais. Tu vois, d'avoir 14 ans, d'avoir déjà des marques qui viennent te voir. Comment tu le vis à l'époque?
Oui, alors au tout début, c'était une marque plus locale et c'est parce que j'avais quand même un besoin de combinaisons, de planches et tout ça, d'équipement technique de surf. Et du coup, c'est parce qu'ils sponsorisaient une compétition qu'il y avait dans mon coin et du coup, c'était une bonne occasion et j'étais allée voir la marque ou c'était eux qui étaient allés me voir, ça s'était fait comme ça, je sais plus exactement. Et du coup, j'étais toute contente parce que je pouvais avoir une combinaison sans trous et tout ça et des planches et tout ça, donc c'était trop bien. Je pouvais avoir un peu plus chaud dans l'eau.
C'est incroyable. 14-15 ans, quoi.
Ouais, et après, ouais. J'ai enchaîné. Après, quand j'ai fait deuxième au championnat du monde, là, j'ai eu plus de marques de surf qui m'ont contacté. Et là, j'ai dû faire un choix. C'était vraiment la première fois où j'ai rencontré un certain nombre de marques de surf, et même avec mes parents, sans mes parents, dans des cafés, tout ça. Et j'ai dû prendre ma décision qui était le plus intéressant pour moi.
Et comment t'as choisi?
Eh ben, je pense que j'ai pris la pire et la meilleure décision. C'était le moins bon contrat qui m'était proposé, niveau financier et tout ça. Mais par contre, je faisais partie d'une équipe qui était compétente, enfin de bons surfeurs.
Okay.
Donc autour de moi, j'étais pas la numéro un de la marque, loin de là. Mais du coup, il y avait la concurrence et il y avait un bon encadrant. Du coup, je me suis dit dans ma progression, ça allait m'aider parce que ça allait être dur.
Ok. Voilà.
Donc, j'ai choisi la voie qui était plus, plus dure, mais en même temps plus excitante, parce que du coup, j'avais la concurrence au travers de la marque dès le début.
T'as pas tout misé sur l'argent?
Ah non, mais non, surtout quand c'est au début. C'est au début, il faut. Enfin, pour moi, ma vision, c'était visée sur la possibilité de plus grosse progression, évolution possible et rapide, en fait.
Et donc, le fait d'être dans une équipe comme ça, toi, individuellement, ça t'a aidé à progresser aussi? Comment ça s'est passé exactement? Parce que vous entraîniez ensemble, c'est ça?
Mais je savais qu'il y avait un encadrement et sur les compétitions, je pouvais partir avec les surfeuses de la team et le coach de la team. Donc du coup, j'étais encadrée j'étais en continu avec des bons surfeurs autour de moi.
Et ça t'a fait progresser
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qui t'a fait progresser? De les côtoyer comme ça au quotidien? Vous discutiez de surf, de ce fait-là tout le temps ou...
Même de pratiquer avec eux, d'être dans l'eau et d'avoir des conseils avec un coach et de pouvoir m'inspirer des mouvements des autres surfeurs, en fait. Tout simplement. Ouais, c'est un côté un peu... Le surf, c'est un côté un peu... presque artistique des fois un peu. Mmh. En fait, il y a un côté très technique et puis il y a le côté aussi où tu t'inspires des autres et après tu le crées dans, ouais. tu reprends un peu à ta façon, à ta sauce.
Ouais. Oui, de les voir, j'imagine, au quotidien, ça, c'est vachement inspirant, quoi.
Voilà. Alors qu'être numéro un d'une marque, ben, c'est très bien, mais à ce moment-là, ça m'aurait peut-être pas apporté parce que je j'avais pas envie de mettre du temps et de l'énergie sur le côté même presque business où c'était vraiment le surf, le temps sur le compteur d'eau et de vagues prises qui était important, en fait. C'était, ouais, c'était bien plus ça. C'était le temps d'implication dans l'eau, quoi.
Et t'avais pas peur, tu sais, j'ai un podcast sur l'argent où je fais parler les gens de leur rapport à l'argent. T'avais pas peur, toi, de te dire, ou alors t'étais pas incité, toi, de te dire non, mais en fait, c'est mon premier contrat, il faut que j'aille prendre le plus d'argent possible parce que peut-être après je vais en manquer. T'étais pas là-dedans. T'étais tranquille.
Non, puis on est dans le surf féminin. À ce moment-là, l'argent, c'était pas non plus.
C'est pas un gros contrat, quoi.
Non.
Tu te souviens de combien il était
Non, parce qu'après, je vais pas te dire le montant, mais ça me payait le tour, en fait. Et ça me payait le tour de compétition, en fait.
Oui.
Donc, au début, même jusqu'à mes 18 ans, je voyais pas vraiment l'argent. C'était juste, il me payait les compétitions, les billets d'avion, les déplacements. Et après, en fait, les price money, donc les prix sur les compétitions, ça faisait mon argent de poche un peu. Enfin, argent de poche que je mettais de côté. Et puis après.
C'est combien le price money, comme tu dis, sur une compète de surf à l'époque féminin?
J'étais vraiment pas motivée par l'argent, donc je savais même pas combien. Et ça changeait beaucoup. Et c'était vraiment pas mon moteur. Pour moi, l'argent, c'est la possibilité de plus de liberté. Donc oui, c'est vraiment juste par rapport à ce côté-là que c'est intéressant. Ouais. Mais sinon, chiffre, tout ça, c'est. Non, ça m'a jamais vraiment attirer ou faire vibrer.
C'est Fred, c'est ça qui s'en occupe, c'est ton chéri.
Oui,
qui s'occupe
Fred
de tout l'aspect business.
Oui, il m'aide beaucoup là-dessus. Et puis après, même moi, ça m'intéresse après ce côté business, mais ça m'a intéressé même plus tard. Et après, c'est plus la démarche à chaque fois, c'est pour mon projet, pour réaliser mon projet, est-ce que j'ai du budget suffisant pour être libre de partir du jour au lendemain à Hawaï et de pouvoir amener mes planches, et c'est un certain coût de commander des planches. C'est vraiment cette liberté de pouvoir investir le plus possible ou ce que je pense que j'ai besoin dans mon sport, dans ma pratique. Voilà.
Ouais,
c'est vraiment regarder derrière et ne pas me dire une seule fois, mince, j'ai pas fait ça parce que je pouvais pas, j'avais pas suffisamment de moyens, j'ai eu des limites. Limite, pour moi, voilà, c'est pas assez de liberté, donc ça va.
C'est pas bien les limites.
Bah, en vrai, je suis raisonnée, on n'a pas du tout de rythme de vie élevé ou quoi. C'est la passion, c'est le surf, c'est tout qui est dirigé là-dedans. Après, on a une vie très très simple, donc en même temps.
Votre vie, finalement, c'est vrai que j'ai un peu l'impression que vous vivez, parce que je l'ai dit juste un petit peu, mais en fait, vous travaillez ensemble avec ton chéri, qui s'appelle Fred. Il lui s'occupe effectivement de tout l'aspect business, etc. Mais j'ai un peu l'impression que votre rythme de vie, votre style de vie, c'est plutôt d'aller à droite, à gauche, là où il y a les vagues en ce moment, quoi, c'est ça?
Oui, c'est ça.
À partir du moment où il y a moins de vagues dans un endroit, vous allez à un autre, c'est un peu ça le...
Oui, puis il y a des moments dans l'année où ça, c'est plus pour faire des axes de communication avec les partenaires, ou donc ça va devenir peut-être à Paris, là où il y a un petit peu moins de vagues, ou alors d'autres moments où ça va être planifier des projets, comme là en ce moment, mais là je ne vais pas suivre les grosses vagues vu que j'ai le petit bébé dans le ventre, mais par contre on peut commencer à se projeter sur le prochain objectif, le prochain voyage, et donc voilà, il y a des phases.
C'est comme chouette comme vie.
Oui, mais c'est la vie qu'on a choisie et c'est intense, voilà.
C'est intense. Si je ne me trompe pas, j'ai vu que c'est à partir de 2013 où tu as commencé à dire, ok, moi les grosses vagues, c'est ça que je veux aller chercher. C'est ça, si c'est à...
Ouais, 2013, j'ai eu mes premières expériences. Après, je pense, 2016, on est parti avec Fred à Nazaré, tous les deux. Et là, ça a été vraiment un vrai tournant dans ma carrière où j'ai commencé petit à petit à mettre de côté le surf classique, donc la compétition pure et dure, le circuit qui va plus au JO et tout ça, et pour les grosses vagues. Pour l'océan, l'aventure, ce côté voilà, extrême du sport.
Qu'est-ce qui t'a fait changer? Est-ce que tu avais un peu fait le tour du surf classique, comme tu dis?
Oui, je pense que j'avais fait le tour. Et puis il y avait toujours ce côté un peu cadre qui revenait et qui me frustrait, qui me permettait pas de m'épanouir, et je sentais qu'à l'intérieur j'avais vraiment un besoin d'aller explorer bien plus et que j'allais apprendre bien plus sur moi et autour de l'océan des failles et de tout, des gens. Enfin, c'était bien plus enrichissant. Je sentais que voilà, j'avais déjà pomper tout le savoir presque que je pouvais avoir dans le cercle classique.
Ça faisait 10 ans que tu tournais, quoi, c'est ça?
Oui, alors après, il y a plein de personnes qui continuent leur vie dans ce surf classique et tout ça. En plus, avec le surf qui va au JO, il y avait des possibilités et tout ça. Mais ça me faisait moins vibrer à un moment donné. Après, j'ai eu une aide aussi. Il y a un partenaire qui a arrêté, qui était vraiment dans le surf classique et qui m'attendait là-dessus. Et à partir du moment où ce contrat s'est arrêté, et moi j'étais en contrat à ce moment-là avec Red Bull depuis quelques années, et eux ils restaient là, et du coup voilà, il y a eu des facilités aussi, des moments où voilà, j'ai eu une perte d'un contrat de surf classique et j'étais soutenu par Red Bull. Les grosses vagues, c'était vraiment ce que j'avais mis de côté, puisque c'était un risque pour les vagues classiques, de blessures et tout ça, donc j'avais pas vraiment le temps et le droit et les possibilités d'en faire, en fait.
Oui.
Et du coup, là, bon,
ça te restreignait un peu, c'était
incroyablement. Ah ouais. Et là, du coup, on s'est dit, bon, mais est-ce que ce serait pas le moment? Et on va tenter, et on va voir ce que ça va donner, si c'est exactement ça qui me fait vibrer ou pas, ou peut-être.
Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller te mettre dans les grosses vagues? Parce que j'imagine que tous les surfeurs vont pas surfer des grosses vagues, quoi.
Non, mais c'est sûr. Et puis en plus, via mon parcours au tout début, là, qui avait plutôt peur et tout ça, c'était plus apprendre sur moi. Vraiment apprendre sur le sport, la façon de penser, le côté mental qui était hyper intéressant, et la gestion des émotions, tout ça en fait. Il y avait beaucoup de choses à apprendre et qui me paraissaient intéressantes, tout simplement.
Qu'est-ce que tu as appris?
Plein de choses, à savoir gérer mes émotions.
Quelles émotions? La peur en particulier, c'est ça au début, j'imagine?
Oui, la peur. Après, monter son propre projet aussi, c'est beaucoup plus de liberté parce qu'il n'y a pas de chemin en fait. Donc, quand on est parti en 2016 là, avec Fred à Nazaré, il n'y avait aucun chemin dans les grosses vagues. Il n'y avait pas beaucoup de surfeurs qui en vivaient. Et alors, il y avait un Français qui en vivait, il n'y avait pas de compétition.
Il n'y a pas un tour, quoi.
C'est ça.
Qui t'oblige à aller à droite, à gauche, en permanence toute
Exactement.
L'année.
Exactement. Okay. Le circuit plus classique du surf, il y avait des dates, des endroits, et il n'y avait plus qu'à prendre les billets d'avion, les logements, et à suivre un process beaucoup plus défini, en fait. Et là, non, il y avait tout à écrire, et donc c'était beaucoup, beaucoup de liberté, du coup.
Ouais.
Mais par contre,
beaucoup de risques aussi, de ce fait.
Oui.
Avec la liberté.
Oui, ça va de pair, de toute façon. Et beaucoup de possibilités aussi, de le faire à sa sauce ou comme on l'entend, et puis d'essayer, de se tromper, de repartir. Voilà. Et puis après, on avait la conscience qu'on voulait le faire à fond. Donc si on s'y mettait, au tout début, on y allait, à Nazaré, dans les grosses vagues, on a voulu comprendre est-ce que ça nous faisait vraiment vibrer. Et en fait, on s'est rendu compte, oui, que c'était quelque chose qui nous intéressait. Et donc, on avait cette confirmation de la vibration du cœur, quoi. La vie, elle est courte, il faut faire des choses qui nous.
Quand tu dis on, tu parles de
Fred et moi. Tous les deux.
Parce que c'est comme toi à la fin qui est sur les vagues, quoi, quand même.
Oui, mais du coup, lui aussi, il a appris à piloter. Il en faisait déjà avec ses amis au Segor et tout ça, mais du surf tracté, donc du surf avec le jet ski.
On peut expliquer un peu, c'est qu'en fait, il te lance, c'est
ça? Dans les vagues, voilà.
Il te lance dans les vagues à combien? Tu es à 50, 60 kilomètres? Enfin,
Tu
vas super vite, quoi, déjà, pour commencer.
Oui. Mais après, oui, la vague, mais ça va. Je crois que sur la GoPro, j'avais une information, j'étais à la 65, 66... Donc, je pense que j'ai dû aller à 70 au max. Mais c'est des chiffres comme les mesures, les tailles de vagues, tous ces trucs. Après, c'est les sensations, le surf.
Je n'ai jamais fait attention à
quelle vitesse je vais. Je vais vite et là, je le ressens parce que mon corps est en certain équilibre, mouvement. Et c'est vraiment cette connexion avec la nature, avec la planche, avec l'humain.
Pourquoi tu disais
l'humain,
tout à... ouais. Justement, tu disais tout à l'heure, l'océan, c'est un peu c'est un personnage dans ta tête.
Alors non, pas...
Pour toi, c'est comme un être humain, c'est ça?
Mais c'est même plus fort qu'un être humain. C'est les vagues, chaque vague a un caractère différent. Donc, c'est un caractère à appréhender. Tu ne dis pas bonjour à une personne hyper timide de la même façon que tu dis à une personne très, très sociale. ou tu, enfin en tout cas le ton ou le et ben c'est pareil avec une grosse vague en fait, tout simplement. Si c'est une vague toute gentille et tout ça, tu peux arriver tout gentil, mais si c'est une vague très imposante, et ben t'arrives équipé, t'arrives entraîné, t'arrives avec du sérieux, enfin voilà, ça dépend. Mais ouais, là je pars peut-être un peu loin dans
non,
ma poésie,
t'as raison.
Mais
non, je comprends en plus. Il y a un côté, tu t'adaptes quasiment à chaque vague, quoi.
Voilà, et puis je trouve que l'océan, il a tellement de choses à enseigner dans la vie de tous les jours. Après, enfin voilà, on peut jamais l'arrêter. Il y a toujours des vagues, il y a des hauts, il y a des bas. C'est immaîtrisable. Il y a plein de choses qu'on peut maîtriser, comme la préparation et tout ça. Mais après, quand on est dans le vif du sujet, ben ça continue. Il y a un mouvement continuel et il faut pouvoir s'adapter. Et ça, c'est la vie aussi. Voilà, on est dans un interview ici, bah oui. Mais il y a des travaux, on s'adapte. Ça donne plein de clés dans la vie de tous les jours, je trouve.
D'une manière générale, le surf, tu veux dire, mais en particulier les vagues. Les grosses vagues.
Oui, après l'océan, parce que en fait, juste les grosses vagues, moi, ça me permet de me connecter encore plus avec l'océan. Parce que la compétition encore classique, mais on te dit à quelle heure tu vas surfer et tout ça. Ouais. Alors que les grosses vagues, c'est une recherche.
C'est toi qui décides.
C'est ça, mais qui décide pas vraiment. C'est toi qui choisit le meilleur moment et le meilleur endroit. Et voilà, tout simplement, hein, par rapport aux marées, par rapport à la création de la tempête, par rapport à l'endroit, par rapport à ton niveau, par rapport aux vagues que tu peux surfer, que tu as déjà surfé, les vagues que tu veux surfer aussi.
Les vagues que tu as surfées, que tu veux surfer, que tu as déjà surfé, ça veut dire quoi?
Ça veut dire
pour moi, une vague, c'est une vague, mais je suis complètement novice, hein, je ne connais pas du tout. Hein.
Après, en soi, par rapport aux objectifs que j'ai déjà atteints, j'ai certaines compétences. Et après, je me permets de mettre des objectifs un peu plus haut avec un besoin d'apport technique ou de soutien autour, de différents, un peu plus poussé, en fait, tout simplement.
Comment ça se passe parce que t'es très entouré, donc il y a Fred effectivement qui est sur son jet ski, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours une équipe autour.
Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment le binôme, donc Fred et moi. Ouais. Donc lui, la partie jet ski, sécurité, repérer la vague, me positionner dessus. Aussi après, une énorme partie logistique, mettre sur les billets d'avion, sur les prises de décision, sur des projets. Il y a des projets, oui, qui me font vibrer, mais par contre, qui seront peut-être pas intéressants au niveau business. Il y a des projets.
Joue un
qui
peu
seront...
ton rôle de manager, finalement. Voilà. C'est ça, c'est lui qui dit non quand il... plutôt que toi.
Oui,
c'est à ça que ça sert.
En tout cas, qui m'aide à prendre un micro recul, parce que pour le coup, tous les deux, on est trop dedans pour pouvoir vraiment employer ce mot recul, je pense. Mais voilà, sur ce côté-là, ils m'aident sur tout le côté business management, surf, sécurité. Et après, on a des personnes qui viennent nous aider sur plein de thèmes différents. Dans l'eau, par exemple, à Nazaré, au Portugal, là, ben, y a besoin d'une autre personne sur la falaise avec un takiwalki pour la communication dans l'équipe.
Parce que c'est lui qui voit venir les grandes vagues, c'est ça,
en fait,
de loin.
Oui, pour résumer, donc on part sur une session. Fred va me trouver la vague, il va me lancer avec le jet ski, comme ça j'ai de la vitesse qui va pouvoir me permettre de surfer. Une fois que je suis sur la vague, Fred ne me voit plus parce qu'il est derrière la vague. Donc la personne sur la falaise avec le takiwalki va pouvoir informer Fred si je suis tombé ou si je suis en train de surfer. Et il y a même une autre personne qui est sur un autre jet ski de sécurité et là qui va aussi pouvoir assister Fred s'il n'arrive pas à me récupérer ou quoi.
Parce que là,
ça, c'est l'équipe minimum.
Si tu tombes dans une vague comme ça, tu peux rester dans le rouleau pendant combien de temps?
Ça dépend, mais tu ne restes pas très longtemps. C'est 15 secondes, 17, grand maximum. Enfin, quasiment, voilà. Après, par contre, c'est répété. C'est continuel. C'est ça. J'ai mixé deux mots. du coup on surfe, donc on a le cardio qui est haut, le rythme cardiaque qui augmente. Et là, quand on va sous l'eau, il faut qu'on soit en apnée, qu'on lâche prise pendant ces 15 secondes, où ça peut être violent, ou des fois l'océan il est cool et c'est pas si violent que ça. Et on remonte à la surface et là, par contre, il n'y a que quelques secondes. On a 5 secondes maximum, c'est du grand luxe si on peut avoir 10 secondes.
Oui, parce que tu as une autre vague sur qui
t'arrive. Parce qu'après, c'est reparti. Voilà, pour 15 secondes, et puis là, ça peut enchaîner 5 fois. En règle générale, normalement, ça n'enchaîne pas parce que l'équipe est au top moi, je suis très bien entourée. Donc Fred et Clément, ils viennent me récupérer. C'est les deux personnes avec lesquelles j'ai le plus fait à Nazaré. Et après, sur d'autres endroits, on demande aussi à des pilotes sur place. J'ai fait Michel Aronde, qui est une légende du surf de grosse vague à Hawaï, parce qu'il connaissait cette vague-là. Donc on s'appuie vraiment avec des personnes du milieu. Ça, c'est pour la partie technique. Après, j'ai une préparatrice mentale, Isabelle Chausse-Biarritz, des gens qui nous aident sur le côté après, avocat, autre. Voilà, ouais. C'est toute l'équipe après.
Comment elle t'aide, ta préparatrice mentale ?
À ranger mon cerveau.
Ah oui.
À prendre les bons choix. Faire les bons choix, pardon. À prendre un petit peu plus de recul aussi. Parce que c'est une personne qui connaît Fred, qui me connaît et qui a conscience de l'enjeu dans lequel on évolue. Et ouais, du milieu dans lequel on évolue. Et du coup, qui arrive à prendre vraiment du recul et en même temps à être neutre. Parce que c'est pas une personne de la famille. Moi aussi. Parce qu'il y a aussi les avis de la famille et tout ça, mais c'est ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes conseils.
Oui. Et donc c'est là, pas des pros, quoi.
Voilà. Et après, il y a d'autres conseils d'autres personnes. Mais voilà, cette personne-là, Isabelle, elle travaille avec plein d'autres sportifs très doués et avec une petite pointe de côté un peu extraordinaire, des différents un peu.
Okay.
Donc elle est habituée à avoir ce côté-là. De la perception d'une carrière qui peut être un peu différente.
Voilà, de gens qui vont plutôt vers l'extrême, c'est ça, d'une manière générale ?
Oui, ou même notre pratique, ou ma façon de faire, elle est atypique, je dirais, aussi.
Tu fais pas que du surf.
Oui, et puis voilà, les moules et tout ça, non, voilà. Donc, on essaie de créer notre chemin, et donc des fois, c'est pas évident, parce qu'on a notre façon de faire, et on se rend compte que, la façon de faire de beaucoup de personnes serait je sais pas, d'une telle façon, et que moi, finalement, si je respecte pas mon côté, avoir ce besoin de liberté, d'évoluer dans la liberté, tout ça, je vais pas forcément performer. Ouais. Alors qu'on peut se dire, pour réussir un objectif hyper important, il faut amener peut-être plus de rigueur. Mais finalement, non, pour moi, ça va peut-être...
Ça va te desservir.
À ce point-là, me desservir. Quoi.
Okay.
Il faut se connaître pour se connaître le mieux possible pour pouvoir après jouer avec ses compétences, ses qualités et oublier ses défauts. Non, travailler ses défauts
avec,
aussi,
en tout cas.
Faire avec.
Et ta famille, tu disais, ils s'inquiètent un peu pour toi ?
Oui, non. Après, ils vivent leur vie et ça, non, ça se passe très bien. Et je pense que sûrement qu'ils on en parle pas beaucoup.
C'est inquiété en silence alors peut-être.
Voilà. mais non, ils me font confiance. Ils me font confiance. Ils savent mon approche, qui est un peu différente, mais en même temps qui est très centrée sur la sécurité. Fred, il a été sauveteur pendant plein d'années, il a ranimé des gens, il sait comment ça se passe, il est vraiment très pointu sur cet aspect-là. Clément, c'est un sauveteur aussi qui nous avait rejoint là il y a quelques années quand on s'est lancé à fond. Et donc voilà, on s'entoure de personnes qui sont compétentes et qui sont bien, qui sont là pour moi aussi, autant que je suis là pour eux aussi. C'est un échange, mais ouais, c'est...
Est-ce qu'il y a eu je te parlais tout à l'heure de ta blessure là qui t'a où tu t'es cassé, si je me trompe pas, l'épaule et le genou, hein, c'est ça, en 2018,
oui,
c'est ça. Et je vous entendais, je mettrai un lien dans les notes avec Fred dans un podcast de HBO, parce qu'en fait êtes passés tous les deux dans un documentaire incroyable qui s'appelle 100 Foot Waves, les vagues de 30 mètres, quoi.
C'est ça.
Et en fait, vous êtes passé avec la femme d'une légende du surf de grosse vague qui s'appelle Nicole
McNamara.
Ouais, exactement. Vous racontiez, elle vous demandait de raconter un peu cet épisode. Est-ce que tu pourrais le re-raconter ici en français ? Parce que si je me trompe pas, vous étiez pas d'accord l'un avec l'autre, c'est ça ?
Oui, ça arrive. Ça peut arriver souvent d'ailleurs. Mais oui, alors du coup, c'est parce qu'en fait, on maintenant, à Nazaré, il y a une série documentaire, donc en français, sans footwave, non, 30 mètres.
C'est les grandes vagues de 30 mètres.
Footwave.
C'est HBO qui fait
exactement,
ça.
Exactement, c'est HBO qui fait ça. Et donc, c'est diffusé aux États-Unis et ça marche très très bien aux États-Unis. En France, nous, on l'a pas trop encore. Ça fait bizarre à chaque fois qu'on a
pas HBO Max.
Ouais, voilà. Donc c'est toujours rigolo parce qu'à chaque fois qu'on arrive aux États-Unis, on est arrêté dans la rue et tout ça. Il y a des gens qui nous arrêtent et on dit mais pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? Et en fait, c'est cette série. Voilà. Ouais. Et du coup, d'où cette série, suivi. Et pendant l'année qu'il y a eu, où il y a eu le Covid, où nous, finalement, on a eu un visa, on est parti à Hawaï, on a eu des opportunités comme ça où, qui sont présentées, parce que la chance, on la provoque.
Ouais.
Et finalement, on s'est retrouvé à surfer une super vague. Et en fait, pour la petite histoire de Hawaï, c'était en fait la première fois qu'ils organisaient les championnats du monde à Hawaï en 2016. Et ça m'a aidé vraiment à basculer dans le surf de grosse vague.
Okay.
Parce qu'il y avait eu cette petite ouverture aussi. Et cette opportunité où je suis partie, j'ai surfé ces premières grosses vagues sur l'île de Maui, là où il y a la vague de Jaws.
C'est voilà. La fameuse vague de Jaws, là, c'est ça?
Voilà, ça s'appelle Mâchoire, qui m'a bien mangé. Voilà. Donc, la première fois, c'était une super expérience. On a compris qu'on aimait les grosses vagues. J'y suis repartie. Et quelques années après, pendant le championnat, je me suis cassé l'épaule et le genou. Donc, c'était la plus grosse blessure, douleur et bas que j'ai pu avoir. Et là, j'étais vraiment dans une évolution très, très positive. C'était assez exponentiel même. C'était vraiment chouette. Et en fait, j'ai pas pris suffisamment de recul. J'étais un peu aveuglée par mon objectif et ma mission. Donc, j'avais un peu moins d'ouverture d'esprit à ce moment-là. Et Fred était là. Et lui, il a pu... Enfin, pour lui, et voilà, il fallait que je m'arrête. Et j'étais qualifiée pour la finale. Mais voilà, il y a eu un peu deux perceptions.
Ouais.
Il y a eu celle de la voie de la compétition.
Ouais.
Oui, j'étais qualifiée en finale. Il fallait que je m'arrête pour garder mon énergie. Et puis, il y avait la voix de la Justine puriste du surf qui
du
voyait...
Kiff, c'est ça, tu
oui,
un peu quand même.
Oui, mais en même temps, c'est aussi une opportunité de prendre la veille d'une vie. Et dans ce sport-là, c'est aussi... Tu peux presque le voir aussi comme presque du business aussi, en fait.
Ouais.
Enfin, même si moi, je pour être honnête, je le voyais quand même vraiment comme objectif personnel et d'aller surfer une super vague. Il y avait tous les feux qui étaient ouverts, il y avait la sécurité et tout ça qui était présente. C'était une belle journée, on n'était que 6 dans l'eau. C'était, voilà, j'avais envie de pousser. C'était le moment où je pouvais me prendre un risque plus important. Et finalement, ben, je l'ai pris et voilà. Je me suis cassé l'épaule et les genoux, donc je pense que c'était pas la meilleure solution.
C'était un peu mis un stop à ce moment-là dans ta carrière.
Voilà, complètement.
T'as dû te,
je suis rentrée, ça m'a arrêté complètement dans cette évolution et je me suis reconstruite et je suis revenue l'année d'après. Tout allait bien, mais c'est différent quand même. Chaque blessure bah, apprend beaucoup de choses, mais aussi laisse beaucoup de marques. Et il faut travailler. Ça me permet aussi de travailler plus professionnellement, plus rigoureusement le mental aussi. Donc, je me suis rapprochée de Isabelle. J'ai fait des séances de MDR et tout ça aussi.
Okay.
Et,
le MDR,
voilà.
C'est pour les gens qui ne savent pas, c'est pour gérer les traumas. Parce que j'imagine
oui,
qu'une fois que tu dois retourner sur la vague alors que tu t'es... fait
oui.
mal, très mal,
oui, oui.
Ça doit être un truc, quoi.
Ouais, c'est hyper intéressant. C'est en gros, tous les soirs, quand on va se coucher, notre cerveau, pour simplifier, il va droite à gauche et il retraite les informations. Et quand il y a eu un traumatisme, eh ben, le cerveau, ben, là, il bloque un petit peu plus là-dessus. Donc, quand il y a une autre vision de moi, par exemple, de cette grosse vague, de cette chute-là, ben, hop, le cerveau, il bloque dessus. Donc,
ouais.
Voilà, il n'agit pas librement et fluidement.
Donc le MDR, ça sert à remettre un peu d'ordre là-dedans et
exactement.
À te redonner un peu de puissance, si je ne me trompe pas.
Oui, voilà, de maîtrise.
Dans le souvenir.
Voilà, exactement.
Parce que c'est qu'un souvenir qui traumatise.
Tout à fait.
T'as de rien. Enfin, donc, une fois que tu as guéri le corps physique, je veux dire.
Ouais, voilà. Donc voilà, et après, je suis reparti dans les grosses vagues, ça s'est très bien passé.
Oui.
Et là, il y a 2 ans, du coup, je me suis cassé la cheville aussi à Nazaré. Mais ça, c'est normal parce que ça faisait 7 ans que je surfais à Nazaré tout le temps, toutes les grosses tempêtes. Et c'est un accident de parcours qui est complètement basique, en fait. C'est comme une entorse.
Oui, c'est comme un...
Je sais pas quoi. C'est, voilà, bon, c'était cassé, mais voilà.
Ok. Tu t'es jamais fait plus peur que ça en pratiquant les grosses vagues?
Il y a eu des moments où aussi, il y a des moments où c'était un peu plus effrayant que d'autres. Mais 10 jours avant que je me casse la cheville, je suis allé pas très loin de la falaise à Nazaré. Et c'est vrai que là j'ai pris une très, très, très grosse vague où je suis tombée. Et donc, une première erreur. Et après, là, c'était compliqué. Du coup, j'ai enchaîné des vagues dans la tête. Et l'équipe n'a pas réussi à venir me chercher parce que c'était pas possible. Les vagues s'étaient trop rapprochées. Donc, et je me rapprochais de la falaise en plus. Donc, il y a la pression qui monte, tout ça. Donc, ouais, là, c'était assez intense. Mais ça arrive. Et au moins, j'ai pu me rendre compte que mon entraînement d'apnée était, et des parfaits, ouais. Parce que je suis rentrée sur la plage avec même pas les lèvres violettes. J'étais super au niveau de l'apnée. J'ai pas eu l'envie de respirer. Mais bon, même si c'était pas non plus un temps agréable de ballonothérapie, hein, c'était un temps assez violent. mais voilà, c'était un bon repère.
Ok. Bon, t'es enceinte? Et on va, si tu veux bien, parler un petit peu de, tu sais, j'ai un podcast qui s'appelle Histoire de Daronne. Donc Justine, t'es championne de, tu surfes des grosses vagues, tu surfes des vagues de 20 30 mètres, et là bah t'es enceinte de quelques, enfin de, j'allais dire non, t'es enceinte de 7 mois et tu vas accoucher, oui, dans quelques mois.
Oui.
Comment tu perçois, toi, l'impact entre guillemets de cette maternité qui arrive sur ta carrière à venir?
Pour moi, déjà, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire avec Fred, et on se le permet parce que aussi, on, je pense qu'on a atteint des objectifs sportifs et de carrière qui sont déjà très très chouettes et qui nous comblent, et on en a d'autres.
Ouais.
Mais à ce moment-là, j'avais plus envie, et lui aussi, de vivre ce moment. C'était le bon moment, je pense aussi. Et ça se passait bien dans les vagues, donc c'était aussi le bon moment. Et donc trop bien. Et maintenant, le futur, je pense que ça va être juste plus beau, parce qu'il va falloir qu'on soit encore plus efficace et encore plus intelligent, pour plus organisé. Et en même temps, je pense qu'on va continuer les grosses vagues.
Ouais.
Et avec lui, on a envie de lui faire partager. En tout cas, je pense faire partager tout ce qu'on vit, et pouvoir aussi prendre le temps de passer du temps avec lui et tout ça. C'est le but, quoi.
Ça te fait pas peur de te dire, bon, bah, en fait, les risques maintenant, peu importe, je vais avoir un bébé, quoi.
Non, je sais pas. Après, c'est dur d'en parler, ouais, alors qu'il est pas encore... à l'extérieur, parce
là.
Qu'il est là, il est, oui, là, il est dans l'antre. Mais
en tout cas, tu te projettes pas là-dessus, quoi. C'est pas...
Oui, après, c'est sûr que bon, mais si je suis dans l'eau, ben je sais pas que je le nourris, pourrais-je des trucs de logistique, pourrais-je, ouais, tirer mon lait, que je sois pas trop en stress,
ouais,
qu'il y a à manger, qu'il soit bien, bien gardé, tout ça, qu'on puisse. Mais je pense qu'on va trouver des solutions. On a suffisamment été entraîné jusqu'à présent avec notre pratique du surf, tu vois, pour le mettre dans la vie de tous les jours et pour l'appliquer avec cette vie personnelle. Donc,
bah ouais,
pour allier les deux. Et puis aussi, ça peut donner... On peut le voir comme un côté, en plus, être une femme, mais je dois mettre entre parenthèses ma carrière pendant un petit moment, parce que je peux pas surfer des grosses vagues en même temps. Mais par contre, je pense qu'on peut être, on peut en faire une force aussi. Il y a tellement de choses que j'apprends, je change, ça a 9 mois pour évoluer mentalement aussi, pour être encore plus efficace et grandir aussi sur plein de points.
Qu'est-ce que tu as appris là pendant ta grossesse?
Ouais, d'être un petit peu plus efficace, d'utiliser à mon escient mon temps, et d'apprécier chaque moment, chaque instant, et de se programmer un petit peu plus de choses aussi. Prévoir, voilà.
Bah oui.
Ce côté-là, le cadre.
Ah mon Dieu.
Qu'il y a du bénéfice aussi aux routines, aux cadres, ouais, et tout ça aussi.
Et tu disais tout à l'heure que tu n'aimais pas les restrictions de liberté. Bah là, tu,
oui,
vois,
mais une vie, c'est avec...
ça va venir cadrer plein de choses, quoi, dans votre vie.
Exactement. Et des fois, presque avec trop de liberté, on se rend plus compte de la chance d'avoir cette liberté-là, et on ne l'utilise pas au mieux aussi. Des fois. Donc là, en fait, je me rends compte qu'en étant plus carré sur des choses, ça me permet aussi de beaucoup plus profiter les moments où je vais aller chercher ce recueil de liberté.
Bah ouais, c'est incroyable. Non, mais c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que l'enfant, tu peux le voir soit comme une restriction de liberté, soit comme une façon aussi de te dire comment je fais pour aller chercher le plus de liberté possible dans ce cadre-là, quoi.
Oui, et puis c'est vraiment le retour sur la qualité avant la quantité aussi, tu vois. C'est exactement ça. Qualité. Oui. Qualité de temps passé avec lui, qualité de temps passé dans l'océan. Et puis, il y a plein de choses aussi. Ça me permet de faire du tri aussi, hein, sur des choses qui sont peu importantes. Ou même moi, sur le côté business et tout, je ne sais pas dire non sur plein de choses et je réponds plein de choses. Mais là, il faut que ça soit un peu plus donnant-donnant. Voilà. que ça soit
trop bien.
Un échange plus intéressant.
Est-ce qu'il y a un sujet... Pardon.
Non, plus équilibré. Voilà, ouais. Simplement.
Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler dans le podcast?
Non, mais je ne sais pas. Il y a tellement de sujets. Après, j'espère que, que j'ai essayé de parler pour que ça soit le plus compréhensible pour tout le monde.
Ah, là, c'était très compréhensible.
Et puis moi, je suis dans mon monde. Et,
ouais, et puis, je vais mettre des liens vers ton compte Insta, vers ta chaîne YouTube pour les gens qui veulent découvrir un petit peu. Parce que les vidéos sont incroyables. En fait, pour moi, c'est surtout ça. On a pas mal parlé, là. Mais après, il faut aller voir à quoi ça ressemble. Quand tu te lances comme ça du haut d'une vague, c'est complètement dingue, quoi. C'est... Ouais. Bravo, en tout cas.
Merci beaucoup. Merci pour ton temps.
Merci pour ton temps. Et puis, plein de bonheur pour ce qui vous attend.
Tout à fait. Plein de vagues à surfer encore ensemble.
Grave, tu m'étonnes. Merci beaucoup.
Yes. Ciao.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.